Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons lire désormais le texte de la prédication, situé dans 1 Corinthiens au chapitre 12, des versets 18 à 27. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici la parole de l'Éternel.
Pour que notre corps fonctionne bien, nous avons besoin d'un cerveau qui fonctionne bien. De même, pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit, sur lequel nous comptons encore aujourd'hui pour comprendre cette parole. Et nous avons commencé une série intitulée « L'Évangile change tout ». Et nous prenons différents thèmes abordés par Jacques Elcrow dans son livre « Ça change tout ». Et nous avons déjà vu quelques éléments ensemble. Peut-être vous souvenez-vous du premier élément. Que change l'Évangile ? Eh bien, l'Évangile change notre identité. Si l'Évangile a envahi ta vie, tu n'es plus la même personne. Tu es né de nouveau. Ton passeport spirituel est celui du ciel. Ta patrie a changé et cela se manifeste petit à petit dans ta vie, comme une plante qui grandit et donne son fruit. Nous avons vu un deuxième élément, c'est que l'Évangile change ton histoire. Si l'Évangile est une réalité pour toi, ton histoire qui devait finir par un jugement juste et terriblement angoissant ne finit plus ainsi. Le jugement a été pris sur lui par le héros de l'histoire avec un grand H, hein, qui te donne la grâce d'avoir une histoire changée. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un autre changement. L'Évangile change ton appartenance communautaire. Et le premier point nous permettra de réfléchir au changement d'appartenance. Deuxième partie, nous réfléchirons à l'influence de notre famille naturelle. Et la troisième partie sera sur la manière de vivre dans la communauté de l'Évangile. Voilà pour le cheminement que nous allons suivre aujourd'hui. Donc commençons par ce changement d'appartenance. Certaines personnes imaginent qu'il est possible d'être chrétien, donc saisi et transformé par l'Évangile, et ne pas aller à l'église. Certaines personnes imaginent qu'il est possible d'être chrétien, donc saisi, transformé par l'Évangile, et ne pas aller à l'église. Et Jack Elcrow parle d'un titre intitulé ainsi, donc c'est le titre d'un livre, « Comment être chrétien sans aller à l'église ?» Le guide non officiel des formes alternatives de communauté chrétienne. Et ce livre se base sur cette thèse qui dit ceci, en résumé, la bonne nouvelle, bon je mets des guillemets hein, sur la bonne nouvelle c'est qu'il est possible d'être chrétien sans fréquenter une église, mais de rester fidèle à l'appel du Christ en étant nous-mêmes l'église. Eh bien la thèse de ce livre est directement en opposition avec la révélation de l'inventeur de l'église lui-même. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez l'avoir ouvert ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure, Et juste avant le verset 18, il y a le verset 17 qui disait ceci, ou qui dit ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Un corps humain n'est jamais formé d'un seul membre. Jamais. C'est pas possible. De plus, nous pouvons lire que Dieu ajoute ceux qu'il a sauvés à l'Église. Donc quand Dieu sauve, il ajoute à l'Église. Il fait appartenir à une communauté. Nous le voyons clairement dans Actes 2, 47, quand il est dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quand Dieu sauve, il ajoute à l'Église. Ça fait partie d'un tout. Et si Dieu ajoute, ça veut dire qu'il n'en faisait pas partie avant. Il y a un changement. L'évangile amène un changement de communauté. Dieu ajoute à l'Église, à une Église locale visible, réelle, que l'on peut visiter, et dans laquelle nous pouvons compter les membres, comme notre corps, comme dans une famille naturelle. Bon, c'est vrai que lorsque vous allez visiter une famille, il est possible qu'il y a des gens en visite. Et vous n'arrivez pas toujours à savoir, si vous ne connaissez pas la famille, qui fait partie de la famille et qui est en visite. Mais cela ne change rien dans le fait que le nombre est très clair de nombre de membres de la famille, qui sont indissociablement liés par le lien du sang. Et par notre naissance spirituelle en Jésus-Christ, nous sommes aussi liés dans l'Église par les liens du sang de Jésus-Christ. En fait, par notre naissance spirituelle en Jésus-Christ, nous sommes aussi liés dans l'Église par les liens du sang, celui de Jésus-Christ. Et l'Évangile change notre situation, étant avant sans famille, ou si vous voulez, de la famille du monde, eh bien nous sommes placés maintenant dans la famille de Dieu, la communauté de Dieu, dans la famille spirituelle qui s'appelle l'Église, le corps de Christ. Alors là, je vais vous donner un petit défi. Mais nulle part dans le Nouveau Testament, vous trouvez une seule personne qui est encouragée à ne pas faire partie d'un groupe local chrétien. Nulle part dans le Nouveau Testament, une personne n'est félicitée pour ne pas s'associer à une église locale. Nulle part. Nulle part. L'Évangile est indissociable de l'Église. Vous ne voulez pas de l'Église, vous n'aurez pas non plus l'Évangile. Vous ne pouvez pas le vivre. Parce que l'Église, c'est le lieu choisi par Dieu pour grandir dans la foi. Comme le cadre choisi par Dieu pour grandir dans la pratique de la sexualité, c'est le mariage. Eh bien, le cadre choisi par Dieu pour grandir dans la pratique de la foi et la sainteté, c'est l'Église. C'est ensemble que nous progressons. Particulièrement avec des personnes que nous n'avons pas choisies, mais que Dieu a choisies pour nous stimuler les uns et les autres. Et cette notion de communauté est une notion centrale dans l'Évangile. Nous lisons dans Romains 12, verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, avant de nous pencher sur la manière de vivre cette communauté de l'Évangile ou du corps de Christ, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est le deuxième point qui me semble important et je l'espère sera utile et pourra être un grand encouragement, même si parfois il nous reprend. Il s'agit en fait de l'importance d'une vie de famille naturelle saine et selon Dieu pour une vie de famille spirituelle saine. Je vais donc prendre quelques instants pour parler de ce deuxième point, l'influence de notre famille naturelle. Si l'Évangile nous transforme et nous place dans une famille spirituelle, notre comportement dans cette famille spirituelle va fortement être influencé par notre manière de vivre notre famille naturelle. Alors, cette famille naturelle est aussi touchée par les changements de l'Évangile. Et nous en parlerons lorsque nous parlerons plus précisément des changements relationnels que l'Évangile opère. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur l'impact de la vie de la famille naturelle sur la façon de vivre dans la communauté spirituelle. Dieu a mis en place un cadre familial dans lequel nous sommes nés avec un papa et une maman. Ça, c'est le minimum. En tout cas, au départ. Ensuite, il y a souvent des frères et sœurs. Et c'est un contexte d'apprentissage très important que Dieu a mis en place. Dans la famille, nous apprenons à vivre en communauté. D'accord. Évidemment. Et si dans la famille naturelle, il y a un intérêt réel les uns pour les autres, cela se vivra beaucoup plus facilement dans la vie de famille spirituelle. S'il y a de l'intérêt les uns pour les autres dans la famille naturelle, ce sera quelque chose de plus facilement vécu dans la famille spirituelle. Si dans la famille naturelle, il y a de l'entraide les uns pour les autres, cela se vivra plus naturellement dans la famille spirituelle. Si dans la famille naturelle, il y a le don de soi, où l'on est capable à renoncer à ses propres intérêts pour le bien de l'autre, eh bien ce sera une capacité que nous allons vivre dans la famille spirituelle. Si dans la famille naturelle, il y a une réelle acceptation de l'avis de l'autre, et même la recherche de conseils avisés, eh bien cela se vivra également dans la famille spirituelle. L'acceptation de l'avis de l'autre, la recherche de conseils avisés dans la famille naturelle, cela se vivra également, ou plus facilement, dans la famille spirituelle. Et si dans la famille naturelle, il y a un respect empreint d'amour, d'humilité et de soumission envers l'autorité, que ce soit parentale ou conjugale, cela se vivra également dans la famille spirituelle. S'il y a un respect empreint d'amour, d'humilité et de soumission envers l'autorité, parentale ou conjugale, cela se vivra également dans la famille spirituelle. En fait, on pourrait continuer la liste. On pourrait la continuer. Mais chacun a compris l'importance d'apprendre à vivre cela dans la cellule familiale où nous naissons et grandissons. Et Dieu, c'est vrai, dans sa grâce, ne nous demande pas que nous sortions d'une famille naturelle parfaite pour bien vivre l'Église. Non, c'est vrai. Il ne demande pas ça. Heureusement. Parce que bien vivre l'Église peut aussi aller dans l'autre sens. Le fait de bien vivre les relations dans l'Église peut nous aider à bien vivre les relations dans la famille naturelle. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Mais évidemment que dans la famille naturelle, nous commençons beaucoup plus petits. Et Dieu a donné un mandat à la famille naturelle, pour apprendre ces choses. Et il est possible que la famille naturelle dans laquelle nous vivons soit dysfonctionnelle, ou brisée, ou disparue. Et l'Église est alors le lieu de formation et de progrès. Mais nous constatons que ceux qui ont reçu cela dans le cadre de leur développement naturel en famille ont un grand avantage. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui le reçoivent en famille et une responsabilité de le vivre avec ceux qui ne l'ont pas reçu et d'accompagner ceux qui en ont besoin. Et si des parents chrétiens parmi nous n'ont pas équipé leurs enfants pour une relation saine avec Dieu, en leur apprenant la notion de l'autorité, ou pour les interactions dans l'Église, en leur apprenant l'humilité, la fidélité, le don de soi, eh bien, tant que Dieu prête vie, il est possible de se repentir et de changer de direction. Ne disons jamais « tant pis !» Disons « je me repens et je change de direction. » Et je ne peux qu'implorer l'Éternel d'agir puissamment dans nos foyers afin que nous vivions avec un amour pour l'Église semblable à l'amour de Dieu pour elle. Lui qui a donné son Fils unique afin de racheter l'Église, de la sanctifier, de la préparer pour le jour des noces. Ce que nous vivons dans la famille naturelle va avoir une influence énorme dans la famille spirituelle. Et par la grâce de Dieu, ce que nous pouvons vivre et apprendre dans la famille spirituelle aura aussi un impact dans notre famille naturelle par la grâce de Dieu. J'aimerais prendre le temps de réfléchir à cette troisième partie, la manière de vivre la communauté de l'Évangile. La communauté spirituelle de l'Évangile, c'est l'Église locale où Dieu nous a placés. Et l'Église n'est pas un lieu de satisfaction spirituelle. L'Église n'est pas un lieu de satisfaction spirituelle, quand bien même nous recevons beaucoup lorsque nous y vivons sainement. Ça, c'est vrai. Mais l'Église est un corps. L'Église est un corps dont nous sommes membres. Donc si nous sommes membres d'un corps, eh bien nous avons une responsabilité, une redevabilité envers le corps tout entier. Nous avons une responsabilité, une redevabilité envers le corps tout entier. L'Église n'est pas un club de relations superficielles. Non, l'Évangile nous place dans un réseau relationnel qui est pour la vie. Bon, vous allez me dire, si on déménage, on sera peut-être dans une autre église locale. Ok, c'est vrai. Mais cette notion de vivre dans une église locale, c'est permanent. Ça fait partie de cette œuvre de l'Évangile. Dieu ajoute à l'Église. Et Hébreux 10, 24, 25 nous indique l'attitude d'une famille spirituelle selon l'Évangile. C'est magnifique. Que Dieu nous donne la grâce de vivre cela. Écoutez bien. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Mais il y a une raison. Pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. C'est Hébreux 10, 24. Et le verset suivant, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. La communauté de l'Évangile, l'Église locale, elle est tellement extraordinaire. Un groupe de personnes disparates, on pourrait dire un cocktail extraordinaire de personnalités, de sensibilités différentes, d'âges, d'occupations, d'intérêts divers. En fait, sans Jésus-Christ, ben nous ne serions pas ensemble. On se serait peut-être même jamais rencontrés. Et pour plusieurs, et pour tous en fait, on n'aurait aucun lien les uns avec les autres. C'est Jésus-Christ notre lien. C'est lui qui veut que nous fassions partie de cette Église. C'est lui qui nous donne la grâce d'être proches, toujours plus proches les uns avec les autres. Et je l'aspire pour chacun. Que nous ayons des relations proches les uns avec les autres. Bien sûr, on n'a pas toujours les mêmes intérêts. C'est pas un problème. Mais on peut avoir une communion avec tous. C'est tellement important. La vie d'église n'est pas toujours facile. C'est vrai. Nos différences, qui sont en fait des richesses données par Dieu, sont parfois vues comme des obstacles, ou voire même des menaces. Mais lorsque l'Évangile nous anime, eh bien, nous choisissons de vivre le pardon, la réconciliation, la paix entre nous. Vous savez, chacun apporte une part importante et utile à l'Église. Les jeunes, souvent, apportent leur passion, leur façon différente de voir, leur zèle, leur sourire. Hein? Et les moins jeunes apportent leur expérience, leur persévérance, leur fidélité, leur pondération, hein, leur engagement fidèle, leur encouragement. Les hommes souvent cherchent des solutions, les femmes un climat bienfaisant. Les organisateurs aiment structurer et les contemplatifs aiment partager leur émerveillement. Les sanguins aiment faire avancer et les flegmatiques prendre un peu de recul. Mais c'est ensemble que nous adorons, que nous apprenons à vivre en communion, que nous servons, que nous partageons. Nous sommes solidaires. Nous chantons ensemble, nous donnons ensemble et nous vivons le pardon ensemble. L'Évangile change ce que nous vivons dans l'Église. J'aimerais prendre quelques éléments de ce que je viens de mentionner. Premièrement, nous adorons ensemble. Parfois, certaines personnes disent, mon avis de façon inappropriée, j'adore le chocolat, ou j'adore le foot, ou j'adore le tricot. Enfin, bon. En fait, c'est une façon de dire que nous aimons énormément, très beaucoup quelque chose. Ok? Eh bien, le terme adorer est tout à fait approprié lorsque l'on parle de Dieu. L'Évangile nous permet de comprendre son action de salut envers nous, son action de création, de préservation. Et l'Évangile nous pousse à aimer énormément, très beaucoup, Dieu, à lui manifester notre respect. Et nous le faisons ensemble. Nous manifestons notre adoration, par exemple, par notre présence. Des fois, on me dit, est-ce que ça vaut la peine que je sois là? Mais la simple présence est un acte d'adoration ensemble. Nous le faisons en priant, en chantant de tout notre cœur, en écoutant attentivement sa parole et son explication. C'est en fait le cœur de notre vie communautaire. La célébration de la gloire de Dieu, la joie de bénéficier son amour et de sa grâce. C'est ça en fait. C'est le cœur de notre vie communautaire, l'adoration. La célébration de la gloire de Dieu, la joie de bénéficier de son amour et de sa grâce. Et non seulement nous adorons, mais nous apprenons ensemble. Si vous lisez le Nouveau Testament, je vous encourage à le lire régulièrement, évidemment, eh bien, nous avons un tas d'exemples d'enseignements communautaires. Jésus l'a fait dans les synagogues avec ses disciples. Les apôtres l'ont fait dans les synagogues, dans les foyers, partout où les personnes voulaient apprendre. En fait, l'Église est le lieu d'apprentissage par excellence, non seulement de connaissance, mais aussi de sagesse, dans les relations, enfin, etc., etc. Donc l'Église est le lieu d'apprentissage par excellence, non seulement de connaissance, mais aussi de sagesse. Et non seulement nous apprenons beaucoup de choses, mais dans une famille spirituelle saine, nous vivons aussi ensemble, nous vivons en communion. Vivre la communion ensemble. Cela signifie que nous demandons des nouvelles des uns et des autres. Nous nous intéressons à ce que l'autre vit. Nous partageons ce que nous vivons parce que nous savons que l'autre s'intéresse. Parce qu'il est en communion avec nous. Alors, un bon exercice que l'on pourrait faire, que je vous propose de faire, c'est de faire une liste de toutes les personnes de l'Église. Déjà, c'est un bon exercice de mémoire. Toutes les personnes de l'Église et se demander devant chaque personne, devant Dieu, est-ce que je suis en communion avec cette personne? Pour chacune. Alors la relation ne sera pas identique avec chacun. Il faut pas chercher une relation identique avec chacun. Non, la relation ne sera pas identique avec chacun. Mais il y aura toujours une communion entre deux personnes du même corps. Si nous faisons partie du même corps, nous avons une communion. C'est évident. Et cette communion débouche sur le service les uns pour les autres, ensemble pour les autres. Comment pourrions-nous servir, demanderont certains. Eh bien, j'aimerais vous lire une petite liste de Jack Elcrow qu'elle propose dans son livre. Alors, c'est plutôt dirigé vers les jeunes. Mais bon, quand on parle aux jeunes, c'est aux jeunes et aux autres, évidemment. Alors, voici une petite liste. Et vous pourrez noter sur votre petit papier peut-être un élément. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais vivre? Comment je pourrais servir l'Église ensemble? Alors voilà une petite liste. Premièrement, elle parle de l'entretien du bâtiment et de faire le ménage. Depuis quelque temps, on fait le ménage ici dans l'église. Ben voilà. Rendre visite à une personne malade. Savez-vous que dans l'église, il y a des personnes malades, des personnes qui sont pas là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la force d'être là. Pourquoi pas leur rendre visite? Jouer d'un instrument pour le culte. Être à l'accueil. Enseigner à l'école du dimanche. Nous avons des besoins actuellement pour l'enseignement à l'école du dimanche. Aider à la technique, écrire un mot d'encouragement à l'un ou l'autre ou à un responsable d'église. Tous ici, vous êtes dans une situation, il y a des plus jeunes que vous dans l'église, tous. Pourquoi ne pas suivre et encourager un plus jeune que toi? Prendre du temps pour discuter, particulièrement avec les personnes plus âgées. Proposer de s'occuper du ménage, pourquoi pas, de quelqu'un qui en a besoin. Préparer des cartes d'anniversaire, préparer un repas à partager, aider au travail administratif dans l'église. Prendre soin de tes petits frères et sœurs, pour que ton papa ou ta maman puisse aller à l'étude, ou etc. S'asseoir à côté de quelqu'un qui est seul. Enfin, on pourra encore continuer. Lorsque l'Évangile a transformé notre vie et celle de ceux qui sont dans notre communauté spirituelle, nous désirons nous mettre au service et nous désirons vivre cela dans la solidarité. Être solidaire ensemble est un autre élément encore de la transformation de l'Évangile. Par exemple, quelqu'un passe un examen difficile. Tiens, c'est les périodes d'examen actuellement. Eh bien, tous les autres prient pour cette personne.
peut même lui envoyer un petit mot d'encouragement, ou prendre des nouvelles. Bon, aussi les laisser travailler, évidemment, hein. Mais en même temps, manifester sa joie lorsque l'examen est réussi. Ou encourager si quelqu'un n'a pas réussi. Quelqu'un cherche du travail. Eh bien, toute l'église prie pour que cette personne puisse trouver du travail. Certaines personnes vont dire, ben, je viens prendre un café ou un thé avec toi juste pour avoir un temps ensemble, pour t'encourager. D'autres découpent des articles pour dire, voilà, une place de travail. D'autres en parlent autour d'eux. Mais nous sommes solidaires, c'est ça, la communauté de l'évangile. J'ai parlé de travail d'examen, mais ça, on peut parler de recherche d'appartement, de recherche de voiture, de toutes sortes de choses. La communauté qui découle de l'évangile vit la solidarité et désire partager, donner, transmettre et proclamer cet évangile libérateur qui transforme, qui renouvelle, qui fortifie. En fait, une transformation véritable de l'évangile ne produit pas des consommateurs. Non. L'action du Saint-Esprit dans les cœurs produit des personnes zélées pour Dieu et qui cherchent à agir avec les forces et les dons qu'elles ont. Évidemment, on ne peut pas tous faire la même chose, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et alors, on est tous des mains, on est tous des yeux, on est tous... Vous voyez ? Chacun a sa place. Une personne transformée par l'évangile ne vit pas la communauté spirituelle que le dimanche matin. Elle fait partie du corps de Christ la semaine aussi. L'Église a besoin des enfants, des jeunes, des adultes responsables, des célibataires, des parents, des aînés. Et toutes ces personnes, sans exception, ont besoin de l'Église. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre en solitaire, mais pour vivre solidaires avec ceux que Dieu a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre en solitaire, non, mais pour vivre en solidaire avec les autres sauvés. Et par la repentance et la foi, nous vivons l'évangile qui sauve, qui nous transforme. L'évangile nous fait progresser par l'Église pour nous investir dans le corps de Christ et être les participants de sa gloire et les témoins de l'évangile dans le monde entier. Ne dites pas, Seigneur, j'attends que quelque chose se passe pour m'engager. Vous ne vous encouragerez jamais. C'est, Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas exactement. Je m'engage et j'ai la foi que tu me donnes la force pour le faire. Ou la grâce. Ou pour m'arrêter parfois. Parce que c'est pas mon chemin. Ok, ben je m'arrête et puis je me dis, ben j'en prends un autre. Et je veux être de cœur dans cette communauté que l'Éternel construit. Je termine par une série de petites questions qui peut nous aider à réfléchir. Une première question très importante. Et là, ben, il vous faut y répondre dans votre cœur, très clairement devant Dieu. Dieu t'a-t-il ajouté à la communauté spirituelle qu'il appelle le corps de Christ? Est-ce que tu es un membre du corps de Christ? Ça, c'est une question vraiment importante. Ou es-tu simplement en visite dans cette église? Où tu vois le corps, mais tu es en visite. On peut être en visite pendant de très nombreuses années, hein. Comment pourrais-tu progresser dans ta façon de vivre dans l'Église afin de plaire à Dieu et encourager les autres membres de l'Église? Comment ne pas priver le corps de la fonction de membre que tu es? Comment encourager les autres membres à se réjouir et d'être pleinement actifs pour qui ils sont, pour quels membres du corps ils sont? L'Évangile change notre communauté spirituelle. L'Évangile produit une façon de vivre qui glorifie Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous inviter à vous réjouir pour tous ceux qui vivent l'Évangile dans l'Église et à remercier le Seigneur. L'Évangile, c'est la vie et la vie se renouvelle en Jésus-Christ qui a un corps qui s'appelle l'Église. Et nous allons prier pour remercier Dieu pour tous les membres qu'il a mis dans son corps. Prions maintenant. Éternel, lorsque nous regardons nos propres corps, nous voyons que nous avons des mains qui sont tellement utiles. Nous voyons que nous avons des pieds qui nous amènent à des endroits. Nous voyons que nous avons des yeux, nous avons une bouche, des oreilles, un nez, tellement important. Et il y a bien des membres que nous ne voyons pas. des organes qui sont tellement importants que tu nous as donnés et qui fonctionnent ensemble lorsque les conséquences de la chute ne font pas encore effet. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour tous les membres, tous les organes du corps de Christ ici dans cette église locale. J'aimerais te remercier pour tous ceux qui vivent l'Évangile. J'aimerais te remercier pour chacun. C'est vrai, nous sommes parfois hésitants. On est en train de se demander, suis-je une main, suis-je un pied? Mais avançons, Seigneur, et donne-nous la grâce de le découvrir, de nous en réjouir et de mettre à disposition ce que tu nous as donné pour ta gloire, pour les autres, pour l'Église, afin que cette Église rayonne, afin que cette Église ait un corps qui fonctionne, un corps qui peut réellement être utile dans ta main. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons tous voulu être un œil, où nous avons tous voulu être une main. Pardon, Seigneur. Aide-nous à vivre cet évangile qui donne à chacun sa place et qui permet de vivre dans la joie que toi tu construis, ton Église, d'une manière cohérente, d'une manière qui est bonne. Et tous ceux qui sont ici, Père, c'est toi qui les as voulus pour le temps que toi tu veux. Eh bien, sois loué, sois béni. Et nous prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent, les membres de ce corps maintenant qui souffrent, qui ne sont pas parmi nous. Nous pensons particulièrement aussi à Morissette et à Raymond. Tu puisses être avec eux maintenant. Tu puisses les fortifier, les encourager dans leur cheminement, tout particulièrement, par exemple. Seigneur, nous te remercions parce que tu peux aussi être avec la famille Arreyas. Tu vois qu'il y a aussi la maladie qui les retient. Veuille, Seigneur, aussi poser ta main sur eux. Les renouveler, les encourager, les fortifier. Et donne-nous, Seigneur, cette joie de nous intéresser les uns aux autres et d'être prêts aussi à parler de ce que nous vivons pour que nous puissions ensemble cheminer dans cette confiance et cette paix qui est tellement magnifique dans l'Église. Eh bien, Seigneur, que ta gloire se manifeste et que ton évangile se répande par ton Église. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.